On prend des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Merci d'être là, Julien.
Ça fait plaisir. Bonjour, Irène.
Bonjour. Air Canada et le commissariat aux langues officielles veulent une révision du nouveau règlement.
Juste avant Noël, je suis certain que je vous en avais parlé, le gouvernement a déposé son nouveau projet de règlement qui permet au commissariat aux langues officielles d'imposer des amendes à des infractions à la loi sur les langues officielles commises par des entreprises sous juridiction fédérale. Les entreprises visées par ce règlement-là, c'est surtout, c'est très précisément Air Canada, Via Rail, Marine Atlantic, puis des aéroports partout au pays. La semaine dernière, Air Canada, dont on n'avait pas eu de nouvelles sur ce sujet-là, et d'autres acteurs visés par le règlement ont commenté le règlement devant les comités du Sénat et du Parlement. Air Canada croit qu'un maximum de 50 000 $ par amende, c'est trop élevé. Les petits aéroports disent la même chose parce que dans les deux cas, on craint que ça fasse augmenter les coûts d'opération puis qu'on doive transférer ça aux usagers, finalement. Marine Atlantic ajoute qu'ils se demandent s'ils devront faire fermer les services qui sont offerts par des petites entreprises dans leur lieu d'opération. Si ces petites entreprises-là, qui sont souvent des boutiques ou des restaurants qui appartiennent à des petits entrepreneurs, ne respectent pas la loi sur les langues officielles, est-ce qu'il va falloir leur demander de partir? On demande aussi, surtout les aéroports, une plus grande reconnaissance de certains efforts qui sont faits pour desservir les gens en français. Par exemple, les aéroports ont une ligne téléphonique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour offrir un service en français à un usager s'il n'y en a pas sur place dans l'aéroport et que ce n'est pas possible de le faire. On a rappelé toutefois du côté du commissariat du Parlement que les amendes, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une amende dès qu'il y a une infraction. C'est l'amende, c'est le poids ultime qu'a le commissariat pour faire respecter, au moins pour sanctionner les contrevenants, puis en espérant qu'ils ne répètent pas l'offense.
Absolument. Par ailleurs, une nouvelle chaire de recherche sur les femmes, la démocratie et la francophonie, il en est question dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
La chaire de recherche a été créée à l'Université Sainte-Anne à la Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse. On a annoncé l'ouverture de cette chaire-là qui porte le nom de Chaire de recherche du Canada sur les femmes, la démocratie et le pouvoir dans la francophonie. Elle a été attribuée à la professeure Gabrielle Bardal, qui réside en Nouvelle-Écosse depuis 2020. Ça fait cependant plusieurs années qu'elle travaille sur des questions de démocratie puis de la place des femmes dans celle-ci. Son objectif, c'est d'explorer l'impact qu'ont les femmes dans la démocratie, puis comment on peut les encourager à y participer davantage. Parce que, selon elle, sans la présence des femmes en politique, la démocratie est incomplète. La perspective des femmes apporte des nouvelles questions que les hommes ne se posent pas parfois, puis c'est également une porte d'entrée vers la diversité en politique. Ce que Mme Bardal espère faire aussi, c'est d'inclure l'Acadie dans ses recherches. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Acadiens, c'est un peuple sans nation ou gouvernement à eux-mêmes. Ils sont répartis dans plusieurs provinces. Ils ont quand même une influence. Mais comment cette influence-là se manifeste? La perception de ce qui constitue le pouvoir grâce à ce que l'Acadie peut lui enseigner. Puis Mme Bardal va détenir cette chaire de recherche-là pendant 5 ans.
Dans le droit maintenant, la longue attente des indemnités pour les professeurs licenciés de la Laurentienne.
Qui va prendre fin bientôt, c'est que la centaine de professeurs licenciés lors de la crise financière de l'Université Laurentienne en 2021 pourraient enfin voir la fin de cette saga. Le contrôleur financier, l'entreprise qui gérait la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, a terminé le calcul pour savoir ce que les professeurs pourraient recevoir. Au début du processus, quand tout ça a commencé, on s'attendait à ce que les professeurs reçoivent entre 18 et 24 % de l'indemnité de séparation qui leur serait due à cause de leur licenciement. Finalement, c'est une petite bonne nouvelle, ils vont recevoir 25,38 % de cette indemnisation-là. C'est ce qui reste parce qu'ils sont les derniers dans la chaîne à être payés après d'autres créanciers. Dans l'article du droit, il y a des anciens professeurs qui affirment que c'est mieux que rien ou mieux qu'une claque dans la face, comme on dit souvent. Mais ils décrivent aussi cet événement-là comme surréaliste, c'est une blessure encore ouverte à laquelle ils préfèrent ne pas penser. Donc, de savoir qu'ils vont finalement être indemnisés, ça va clore un peu le sujet pour eux. Je vous rappelle que l'Université Laurentienne, c'est la seule université, le seul établissement d'enseignement qui a eu recours à la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ça va rester la seule aussi parce que depuis ce temps-là, il y a eu une modification à la loi qui fait que des agences publiques n'ont pas le droit d'avoir recours à cette loi-là. Pendant ce temps-là, une petite nouvelle rapide, les professeurs de l'Université Laurentienne étaient en grève depuis 3 semaines. Ils se plaignent surtout que les sacrifices n'ont pas été, qu'ils ont fait pendant la crise financière n'ont pas été reconnus. Puis, en plus d'une baisse de salaire, il y a eu une réduction du personnel qui a augmenté leur charge de travail. Donc, on voulait un certain rattrapage. La grève est pour l'instant terminée. Les professeurs ont accepté l'offre de l'Université Laurentienne cette fin de semaine.
Bon, c'est une bonne nouvelle. L'alphabétisation francophone en Colombie-Britannique n'a pas suffisamment de ressources.
Développement en alphabétisation des compétences. Sur les 72 000 francophones qu'il y a en Colombie-Britannique, il y en a 28 000 qui ont des besoins de soutien en littératie et en numératie. Presque le tiers, dans le fond. Puis ce manque de compétences-là, ça affecte évidemment leur accès au marché du travail et à des salaires plus élevés. Puis il y a des services disponibles. Il y a, par exemple, le Collège Éducacentre qui offre des services, mais la demande est sur le point de dépasser l'offre qu'ils peuvent fournir. Il y a des barrières aussi, il y en a d'autres, par exemple le programme d'alphabétisation familiale, qui était le pilier dans l'enseignement aux adultes auparavant, a vu ses budgets être suspendus. Donc, on peut encore suivre des formations si on est un francophone en Colombie-Britannique, si on n'a pas terminé la 11e ou la 12e année. Mais si on a arrêté l'école avant ça, bien là, il faut se tourner vers des programmes en anglais. Donc, pas d'accès en français. Il y a aussi beaucoup de demandes venant des immigrants, puis surtout des réfugiés. Il y a une barrière numérique là-dedans qui s'ajoute pour eux. C'est soit qu'ils ont un mauvais accès à Internet, s'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en payer un décent, soit qu'ils manquent de connaissances pour accéder à Internet ou à des outils informatiques. Puis, pourtant, la plupart de ces cours-là se donnent en ligne. Puis, lorsqu'on les compare, on compare les anglophones aux francophones, on constate que les francophones ont accès à une plus faible qualité dans leurs services. Du côté anglophone, on a plus de moyens, donc on a droit à des nouveaux ordinateurs puis à un plus grand nombre d'enseignants ou de mentors, par exemple. Puis, tous les services en français, tout ce que les services en français veulent, c'est une équité avec les anglophones. Donc, pouvoir lire et compter permet de regagner confiance en soi et de participer davantage à la société. Donc, c'est juste que les francophones puissent le faire sur un pied d'égalité avec les anglophones.
Et comme dernière nouvelle, vous parlez d'une faible participation électorale selon Élections Yukon.
Oui, les élections ont eu lieu en novembre. Je vous en avais parlé de l'élection d'un député francophone là-bas. Le taux de participation a cependant été le plus bas enregistré depuis les premières élections territoriales qui ont eu lieu en 1978. Le taux de participation, l'année passée, en 2025, a été de 53,1% des gens qui peuvent voter. 4 ans plus tôt, en 2021, c'était 65,6% et en 2016, c'était 76%. Donc, on observe une diminution depuis une dizaine d'années. Ce qui surprend, c'est que malgré l'augmentation de la population au Yukon, là, qui ça augmente assez vite, l'élection Yukon constate qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de bulletins de vote. Donc, on dirait que c'est les mêmes gens qui votent, mais les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui s'installent ne vont pas voter. Élection Yukon lance une révision du processus afin de comprendre ce qui se passe. On veut d'abord analyser les tendances chez les groupes qui participent habituellement aux élections. Ensuite, on veut regarder les obstacles à la participation. Puis, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent décourager ou encourager la mobilisation, comme les enjeux qui sont discutés pendant les élections ou la météo le jour du vote? Il y a des solutions qui sont envisagées déjà, comme des bulletins spéciaux qui pourraient permettre aux habitants des régions vraiment éloignées de voter plus facilement. Puis, on veut vraiment se dépêcher parce que la prochaine élection territoriale est en 2029, puis on préférait ne pas voir que la tendance vers la diminution du taux de participation continue.
Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.